Cher jeune homme, selon vous, les choses sérieuses se rangent dans des tiroirs où chaque idée et objet inventé ont la possibilité d'être têtés jusqu'à leur infatuation. Et puis, il y a eu cette turbulence qui est provoquée par un choc émotionnel et hormonal. Et l'on se rend compte que l'on aime les représentants de la loi. Combien de personnes se donneraient corps et âme pour ce moment de froufrou conceptuel que nous dit l'amour. Je peux enfin percevoir, valoriser, comprendre les organes de la loi et sentir que mon handicap mental et ma bêtise se taisent pour comprendre, exprimer et indexer avant même de les expérimenter. Petite question pour les personnes intelligentes. Pensez-vous décemment que vous pourriez douter et croire en vous durant une même journée. Petite question pour les anonymes débiles. Vous croyez-vous assez stupide pour affirmer que vous l'êtes vraiment? Et pourquoi devrions-nous différencier et non pas réaliser la somme des parties? La culture, n'est-ce pas le processus confus d'un désir de nature? Quand je dis des choses sexistes, par exemple écrire à ma meilleure amie que je l'aime comme une salope, n'est-ce pas intentionnel? Même s'il y a une grande part d'instinct et de conditionnement, n'est-ce pas moins acceptable? N'y a-t-il pas plus con et intelligent que la nature? Alors, il a fallu que j'enfourche des choses et des choses, ces choses constituant mon éducation abstraite, que je peux symboliser par mon penchant à aimer romantiquement les hommes, à mentir de façon outrancière et désirer une poitrine moins opulente. J'ai décidé qu'à 1 milliard de points face à l'homme, j'ai gagné la partie et que j'arrête le tournoi en ayant été la leaduse des courses nocturnes pour échapper au monstre informe. C'est à ce jour que je me suis dit que je devais cesser de vouloir changer, qu'il me fallait partir, m'occuper de moi et réaliser une révolution biologique qui s'impose. Rien n'indique, à première vue, que physiquement, chérie représente la femme spirituelle douée d'une belle sensibilité. Son élégance, ratatinée, rapetissée, mais de façon proportionnée, donne l'impression qu'elle résulte de la réduction d'un pain qu'un boulanger aurait oublié d'étirer. Une peau laiteuse, un ensemble de couches superposées, des organes effilés, ont été repliés sur eux-mêmes, produisant un bloc sensuel et dansant qui est proche de la consistance de la bite feuilletée. Dans sa robe de chambre violette, chérie vocifère ses convictions. Ce sont des pensées en roue libre, des scénettes, à l'image de ses jolis seins qui pendouillaient tout en léchant le bord de sa robe et qui, lorsque leurs mouvements prennent de l'amplitude, provoquent des bonds chimériques. Quand le téton se repose, elle le touche et lui parle. À mes yeux, il n'y a rien de plus malheureux que de jamais partager une chose que l'on sait. La générosité, ce petit plus, nous rend amoureux, affreusement amoureux. Téton, es-tu d'accord? Sautillant sur place, sa lourde poitrine hocha du téton, confirmant son approbation. Si penser, c'est échanger et discuter, pourquoi ne parler que depuis votre point de vue et votre opinion? L'ethnocentrisme, vous aurait-il atteint, monsieur, cher Trotsky? Tournant sur elle-même, ses seins se dressèrent horizontalement pour affirmer une position neutre et l'incrédulité des tétons. Depuis sa fenêtre, les yeux fermés, aux lumières du village, les pieds enfournés dans un grille-pain pour se réchauffer, Trotsky, les mains se caressant l'une l'autre pour se rassurer et se dire combien elles sont concentrées par le froid rythme, son lourd sommeil. Sa bouche amplifie la suggestion par des écoulements de bave et de petits pincements d'air bruyant, et ses pieds spasment le rythme de la radio et des rêves de Trotsky. Chérie demeure un non-problème. Non seulement elle n'a pas d'ennemis ou d'histoire à raconter, mais avant tout, elle recherche une figure qui ne lui a pas été enseignée. Elle est une femme, ce qui veut tout et rien dire quant à son éducation, classe sociale, biologique et génétique, mais elle a décidé bientôt de prendre en charge sa vie, telle qu'on l'attend d'une jeune fille, la responsabilité d'être en soi et pour soi, c'est-à-dire d'évoluer au moins une fois par mois, moment de l'obligation corporelle et de ne pas concevoir d'enfant dans un excès d'amour trop convenu pour patienter jusqu'à l'âge de la désillusion dont les spécialistes situent les premiers symptômes vers 15 ans. La sensation se révèle triviale. Vous perdez dans un premier temps la capacité intuitive de juger, sans penser, et dans un second temps, vous découvrez que cette perte constituera le terreau de votre déviance psychologique pour le restant de votre existence. Faire croire à votre corps que vous vous reproduisez physiquement est dans ce cas le possible moyen de combler ce vide de votre enfance pour lequel vous nourrissez des souvenirs, souvent inventés et associés à une vague mémoire émotionnelle bricolée au gré de frustrations et de fantasmes. Je suis un phallocrate qui a réussi à se faire passer pour un joli garçon féministe. J'aime mentir et croire en mes mensonges, les faire tenir dans le temps, leur donner une forme, frôler avec l'incohérence et manipuler mon entourage pour que l'on puisse croire, en toute simplicité, que je suis un homme intelligent et éminemment insondable, profond d'une teneur exquise. De souvenir, je n'ai jamais eu à maîtriser l'ambiguïté du langage. Et les faits, ma maman voue un tel respect pour mes paroles étonnantes et percutantes qu'elle m'a pratiquement hissé dans son fort intérieur au rang de petit génie. Je suis venu parmi vous pour vous donner la semence prolifique et vous nourrir de mes plus chers compliments. Je vous aime, je vous veux et je vous déclare que la route qui sépare votre esprit du grand moment vous rapportera tout autant qu'un orgasme involontaire. Les scénarios d'histoire de couple en vacances se sont devenus ma spécialité. J'aurais pu choisir quelqu'un d'autre que ma personne en tant que protagoniste de l'histoire. Cependant, il me semblait plus simple que ce soit mon jeu, une forme narcissique, pour faire coller le référent à son double, le scénariste à sa personne. Dans une des histoires, il y aurait eu un crime intelligent par Trotsky, un gentilhomme communiste très intelligent et généreux, moi-même, dont l'amour pour une certaine chérie serait immensément grande. Mais Trotsky ne supporte psychologiquement pas qu'elle se laisse conquérir par un homme plus distingué, encore plus intelligent et mieux loti, mais sans ressources propres et surtout, selon lui, d'une banalité sans nom. Ce dernier devait représenter le mal alpha typique qui se love dans des sites de rencontres. Je commets en toute logique dans un scénario un meurtre, mais en toute liberté, sans pression sociale aucune. Le jeu de mon moi-même incarne une forme monosémique qui dépasse les clivages sociaux propres à nos institutions morales. Un Roméo-Juliette très froid, sans émotion et inerte, avec de nombreux dialogues. Ce projet était en sorte d'un réalisme débordant, proche du soap-opéra. Finalement, on découvre que Trotsky n'a que foutre de notre monde. Après l'optimisme caché, le pessimisme déclaré, va enfin la rentabilité croisée avec une bêtise ineffable qui ne m'appartient qu'en propre et une intelligence romantique, nostalgie d'un temps que moi-même j'ai oublié. Finalement, j'ai honte. J'aime les femmes et je crois que les femmes ne m'aiment pas ou tout au moins je n'ai jamais su les aimer. Pourtant, j'ai tout essayé. En passant du machisme dégueulasse au romantisme le plus faux, rien ne se passe, l'inertie est totale. Il s'agit toujours de la même chose. Je finis derrière un écran, une image de moi et des autres qui m'empêche tout simplement de baiser. Si je suis frustré, c'est que de toute évidence, le monde jouit pour moi. Mon désir est devenu inutile à sa réalisation. C'est une obsession, cette solitude du corps qui non seulement ne peut pas connaître, mais transforme cette frustration en une jouissance dépossédée, qui se satisfait du fantasme de son propre corps et celui des autres. Le matin, la fine fleur se déploie dans les herbes. Le matin, le canard jacasse avec les corbeaux. Le matin, le lierre dit au moustique de le butiner encore et encore. Le matin, tout est ouvert dans le paysage et chéri. Elle passe par ici ou là, à droite d'un palmier, comme passerait une femme du monde qui ne sait pas s'habiller. Mais elle est belle, chérie, quand elle glisse son pied dans l'herbe, quand elle imite les corbeaux, qu'elle vient humer le lierre. C'est un peu un parc d'attractions de seconde zone, mais sans la vision idyllique et nostalgique de la finalité, car bien des choses comptent autour de chérie. Surtout le petit pot de flore qui orne le parapet, avec en son sein le citronnier dont l'odeur répand la couleur jaune dans les environs. Nous ne savons plus si nous existons au dehors ou dans la texture des choses. Et c'est exactement le trouble chériesque. Qu'est-ce qui dépassera sa volonté et sa destinée? Que de questions, que de réponses qui ne nous intéressent pas, tout autant que chérie qui, dans un élan ironique, prend la fleur et la lance au canard radieux, lequel affirme sa joie en glissant dans l'eau. C'est difficile de décrire Chéri. C'est comme si les herbes et les forêts et les arbustes et tout ce que l'on n'arrive pas à observer, car cela nous échappe, étaient d'une beauté monstrueuse à côté d'elle. La campagne, cela ne doit pas être si passionnant que cela. C'est du travail et surtout du temps qui s'échappe dans les trous noirs de la nature. Je vais chercher le foin et voilà qu'il me faut presser le pas pour me situer au bon moment derrière les animaux. La brouette, cela n'est pas pour eux, mais juste un accessoire qui, s'il ne se branche pas directement, s'emboîte dans le réel afin de le faire sursauter. Les domestiqués ont donné leur intuition primaire aux hommes qui les ont ensuite nommés. On tapote la croupe de l'animal et on enfonce l'aiguille pour lui injecter une dose d'antibiotiques biodynamiques. Cet animal a une déficience musculaire, il déprime en quelque sorte. Et ici, on ne supporte pas que les animaux ou les plantes ou l'ensemble de la nature ne se laissent prendre par le cafard. Chéri se rapproche de la putain en son acceptation la plus large. Elle dispose au loin d'elle un sexe humide et salvateur pour épouser l'ensemble des formes qui se présentent à elle. Affirmons-le tout de suite, afin d'enlever toute ambiguïté quant à la volonté de Chéri. Si les princesses, ces putains de luxe, comme Chéri aime à se le dire, existent, ce n'est somme toute qu'en regard du pouvoir qu'elles ont de choisir de ce que leur monde leur offre. Toute putain que se considère Chéri, elle n'a jamais eu le choix, mais elle se donne la chance. Elle joue au loto en s'affirmant qu'elle a non seulement jamais succombé à l'amour, mais qu'elle peut se priver de bien des choses et vivre seule pour les autres. Le monde est trop coloré, se dit Chéri. Et je ne dois pas oublier que toute production de sens est reliée à quelque chose, à une chose sans précédent, qui, belle et heureuse, rendra la révolution des passes sociales la couleur fine et infinie. Le monde demeure trop coloré et trop heureux pour se contenter de rester sur place. J'ai crié cela plusieurs fois, à même la table. C'est un automatisme. Ma gorge frustrée et concupiscente serre ses cordes vocales et déglutit une phrase. L'événement se répète. Le monde heureux et coloré peut se contenter de patiner sur place, dit Chéri. Cela ne veut rien dire. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Pourtant, elle a bien envie de croire qu'il en est ainsi. Je pourrais me dire que cela serait quelque chose de bien, une chose un peu modeste, mais tenace. Les cordes vocales lui disent alors ceci. Intelligente tuée, concentre-toi. La gorge a raison. Pourtant, sa couleur rouge profond ne peut pas être comparée au joli monde coloré. Ma prostate, heureuse et colorée, a-t-elle un sens, s'écrie-t-elle. Non, elle se corrige. La prostate, peut-elle créer une expérience sans précédent dans ma relation biologique au monde? Le mieux pour Chéri est d'oublier le goût, si ce n'est le sens de ses délires. Toutefois, toutes ces choses étant dites, le sens s'accumule et ne peut être nié sous prétexte de former une abstraction. Sinon, Chéri, grande forme parmi les femmes, disparaîtrait. L'idée du voyage agite tout particulièrement Chéri, qui dispose et prélève les objets nécessaires dans sa petite valise rouge. La lampe, non. Son bleu est trop intense. Le martinet, oui, cela servira à battre les chiens sur la route. Des culottes, pas trop. Il est facile d'acheter à nouveau et des pulls bien plus belles. En velours jaune ou en lin, ses matières préférées. Des fruits pour la route. Il manque aussi son téléphone. Marque locale et très efficiente. Un Kalumna. Deux jupes que sa mère lui a offertes. Un pantalon beige pour les sorties. Un petit marteau et un tournevis de précision qui sont bien utiles lors des bricoles domestiques. Trois préservatifs, un pendentif échancré aux formes d'une cerise, des cigarettes pour en offrir au premier venu qui l'ennuie, des écouteurs distrayants lors des longues courses à cheval, une petite trousse pour écrire, des chaussures à talons hauts qu'elle n'a encore jamais portées, du papier pour écrire, brodé d'étoiles ou de petits animaux étranges, des chaussures de couleur rouge, verte, jaune, rose, une machette de circonstance, un petit gris-gris offert par l'oncle Chouchou, un tabouret pour se couper les ongles des pieds, un livre, la vie éthologique de Paroula Obu, des graines pour procéder à des semailles dans les journées dominicales, de l'argent, sa caméra pour filmer des fleurs, un fer à souder, le code civil, un élément obligatoire pour faire valoir ses droits. La calèche s'avance, bleu et noir, les roues en bois. Un petit geste de la main, un petit hennissement du cheval, un petit sourire crispé de chéri qui ne sait pas quoi ressentir. Ses yeux regardent déjà des disparus, son père est mort, la ferme a été absorbée par un conglomérat et son frère travaille dans une usine à asticots. De ses 15 ans, l'intuition qui constitue sa capacité de jugement l'a quittée malgré elle. Une lutte engagée contre son amour-propre, coïncidant avec ses métamorphoses sexuelles. Elle lutte contre son rationalisme rampant, qui tente de résoudre ses sentiments par le filtre de la logique probabiliste. Les réflexions de là oui, étonnant, non, se transforment dans les abysses verbaux de la justification. C'est évident, oui, il faut, nous pouvons, et lui procure des hauts le cœur à chaque vague intense de sentiments fragmentés par les injonctions que chérit. Je dois me sentir bien, le monde est coloré. Sa famille se représente finalement qu'un ensemble éparse d'affects, alors qu'on lui avait fait croire à une entité territoriale définie et structurée par un projet éducatif perpétuel. Le cheval courait de ses quatre pattes asymétriques, la terre amortissait le bruit de ses fers et le cocher mit le cap en direction du prochain hôtel. L'amertume de cette perte de soi, elle la reporte sur une saturation de ses relations grâce à laquelle ses organes ont gagné en indépendance et réclament leur dû physique. La calèche disparut et avec le peu d'intuition qui lui restait néanmoins, elle se donna de l'esprit romantico-ironique et nota en grande adolescente dans son carnet « La vie est un trou et j'en touche la paroi, je rigole bien ». En toute simplicité, les multiples adjectifs qui composent ce monde ont été désubstantifiés, mon corps en un objet biologique proche de l'inertie. Après 70 ans d'entretien et de vieillissement, je ne sais toujours pas si je dois devenir un con rempli d'émotions folles ou un grand Bouddha qui traîne son ventre sur les pavés de la modestie et de la clairvoyance. Puis-je vraiment choisir ? Sans doute que les paroles insondables du grand sage le prédestinaient à l'expansion immodérée de son être. Ou peut-être était-il juste un enfant heureux aux grosses oreilles. C'est comme si, à chaque action de ma part, on me ramenait à un vagissement vague et lointain. Les nombreuses occasions de me tester ne m'ont aidé en rien. La centrifugeuse, tel un boyau de digestion, m'expulsait toujours à la périphérie d'une définition, d'un terme. La suite de mots, l'interaction, l'intensité, la sexualité, l'amour, m'a pourtant été offerte par une femme dont je me suis occupé durant des années. Si je l'ai baisée tout ce temps, ce n'est pas par manque de conviction, mais n'y pouvant rien, elle ne devait jamais savoir ce que ma pensée me dictait, sauf si je me trahis aujourd'hui par une échappée linguistique, un lapsus qui me projetterait dans d'autres cohérences. Ce serait beau et tragique. Cette vision, je l'invente pour me rassurer. La plus possible est qu'elle sentirait un souffle balayer les définitions qu'elle attendait d'un homme, se reportant un ensemble de qualificatifs aussi variés que gentillesse, sincérité, passion, constance, fidélité, intensité, et les usages habituels qui régissent un ensemble de couples dont l'espoir d'expansion émotionnelle est aussi relatif que la psychologie. Après avoir lu quelques articles, j'ai médité et me suis mis à des pratiques exotiques selon une conception hédoniste de la vie. Dans les jardins, je me mettais en tailleur et j'écoutais profondément les lois qui régissaient notre existence pour mieux en évacuer les mauvaises pensées, symbolisées par l'image de cet âne qui est devenu un fantôme errant et dansant autour de moi, réduisant mon ego à un bérément non contenu dans la belle carotte, et tout ceci entrecoupé de toutes ces choses loufoques dont on ne sait ni d'où elles viennent ni où elles vont. La rigueur ne m'a duré que quelques temps et la déception, l'incapacité à comprendre le mot passivité m'a poursuivi et j'ai de nouveau sombré dans un mélange de bonnes pensées, sans sceau qualificatif pour ma personne. Ce n'est pas grave, remercie-toi pour ce que tu es et le peu d'âne qui me restait s'est tu. Je me suis finalement reclus dans mon corps, le berceau de mon identité, c'est-à-dire dans mon cas, mes testicules, mon pénis. Je suis pourtant quelqu'un de solaire, selon mon psychologue. »